Bonjour tout le monde. On est dans un webinaire qui va concerner plutôt les réseaux de ravitaillement, les greniers et comment on crée les subsistances de nos luttes et comment elles sont soutenues au quotidien. Et ce webinaire fait suite et s'inscrit dans une série de webinaires au sujet de ce que nous on a appelé, dans un terme un peu barbare, les réseaux outils, mais qu'on peut aussi voir comme des réseaux de soutien aux luttes, qu'elles soient sociales, écolo, antifascistes, en tout cas les luttes au quotidien qui sont alimentées, parfois hébergées ou pour lesquelles on prête du matériel et donc qui ont vu se constituer autour d'elles plein de réseaux. Comme les cantines, les mutuelles de matos, ce soir on se penchera plus particulièrement sur les greniers et les réseaux de ravitaillement. Et ce qu'on voit, c'est que ces réseaux, ils sont à chaque fois à la fois une aide et un soutien aux luttes au quotidien, mais ils ont, en tant que tels, ils portent aussi énormément d'actions politiques, que ça soit du lien, des nouveaux alliés, mais aussi parfois tout simplement recréer à certains endroits des liens politiques qui n'existent plus. Que ça soit autour d'un repas, vous voyez, ou dans des espaces de prêt de matériel, ou dans des lieux partagés aussi, qui sont souvent à la croisée de différents mondes. Et donc, on a décidé à chaque fois de faire ces webinaires un peu en deux parties, avec une première partie avec des acteurs et des actrices de ces réseaux qui viennent vous raconter bah, la manière dont ils vivent les réseaux au quotidien, dont ils sont montés, leurs buts, ce de quoi ils sont fiers et parfois ce qui a fait plus des obstacles. Et dans un second temps, de la discussion, on va plutôt parler de comment monter ces réseaux-là, donc avoir quelques petits conseils pratiques et potentiellement une petite biblio aussi où vous pourrez trouver des infos sur comment faire, comment monter vous-même ces réseaux-là si vous en avez la volonté. Et évidemment, on laissera la place à ce moment-là à des questions. Je vais vous remettre aussi là dans le chat la carte de ces réseaux de soutien. Il y en a vraiment partout sur le territoire et c'est toujours possible de les rejoindre ou d'en ajouter. Et je vais tout de suite laisser la parole aux premiers concernés concernant en tout cas les réseaux de ravitaillement et les greniers. Et est-ce que Chat, tu veux commencer à te présenter et peut-être ensuite passer à nos autres intervenants intervenantes de ce soir?
Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, ça marche?
Ouais, ça
Ouais.
marche.
Moi, c'est Charlotte du réseau de ravitaillement des luttes de Rennes. Et je suis ma coéquipière qui devait être là est malade à la grippe. Du coup, je suis toute seule pour animer. Mais voilà. Est-ce que je présente les autres intervenants ou vous vous présentez tout seul? Je peux faire vite fait un petit tour de pourquoi vous êtes là et après vous développerez dans la première partie. Ouais, super. Et ben du coup on a des camarades du grenier des soulèvements de la terre de Chinon qui sont là et qui produisent des légumes, du miel et qui interviennent dans plein d'espaces différents, qui pourront nous raconter comment ils ont créé leur grenier et voilà toutes les réussites ou les limites qu'ils rencontrent depuis 2 saisons. On a Arnaud, un camarade rennais de Sud PTT, qu'on connaît depuis une dizaine d'années avec le réseau de ravitaillement. Et on a ravitaillé une lutte à laquelle il a participé en 2018, une longue grève de plus de 4 mois. Et depuis cette rencontre, on ne se quitte plus dans les mouvements sociaux rennais. Et enfin, Nicolas, qui est vigneron dans les Corbières. Qui appartient aux caves des soulèvements de la terre et qui développe tout un réseau de solidarité et d'entraide sur son territoire pendant les luttes agricoles, mais aussi après des catastrophes naturelles comme les méga-feux qu'a connu l'Aude cet été. Voilà pourquoi on est un peu tous et toutes réunis ce soir. Est-ce que, Claude, j'enchaîne directement avec la présentation du R2R? Ou tu voulais redire un mot entre deux?
Non, tu peux y aller, on peut lancer, je pense. Je sais pas si tu m'as bien entendu, chat, mais vas-y, hein, fonce.
J'enchaîne. Du coup, un petit mot historique sur le réseau de ravitaillement des luttes de Rennes. Je voulais vous faire un partage d'écran, mais en fait, j'ai trop peur que la technique me dépasse et fasse bugger toute la visio. Du coup, tant pis, En fait, je voulais vous parler de ce qui s'est passé avant nous parce qu'on n'a rien inventé. Et nous, quand on a créé le réseau de ravitaillement de Rennes, on s'inspirait, si on fait dans l'ordre chronologique, d'histoire du ravitaillement, par exemple, d'une grève en 1906 à Fougères. Et je vous invite à aller voir sur Internet, il y a plein de cartes postales de cette grève ouvrière à Fougères en 1906, et notamment des soupes communistes, où on voit dans la cour de l'usine une rangée de poêles roquettes avec plein de cantiniers et de cantinières et des boulangers et des boulangères qui viennent ravitailler cette grève. Et ça s'appelait déjà soupe communiste. Et les photos sont très belles. Ensuite, ce qui nous a inspiré beaucoup aussi, c'est la commune de Nantes en 1968, où les paysans et les paysannes sont allés ravitailler les ouvriers en grève à Nantes avec l'aide des étudiants. Et en fait, cette tradition, elle a beaucoup perduré en Loire-Atlantique et dans le Grand Ouest, pendant de nombreuses grèves, notamment la grève du juin français aussi, où il y a eu des gros ravitaillements paysans pour soutenir les luttes ouvrières. Mais ça, on en a déjà parlé dans le dernier webinaire, mais que vraiment l'idée, c'est que ravitailler les grèves, ça les fait durer dans le temps. Et il y a eu un article dans le Reporter qui explique bien ça, que en fait, on voit une corrélation entre le nombre de paysans et le nombre de jours de grève en moyenne, vous voyez, dans l'année, et que moins il y a de paysans, moins les grèves tiennent longtemps. Du coup, peut-être c'est des corrélations un peu rapides, mais en tout cas, c'est ça qui importe, quoi, c'est de nourrir les gens, puisqu'ils n'ont plus de thunes sur leur fiche de paye à la fin du mois quand ils font grève. Et voilà. Et du coup, cette tradition, elle a été relancée depuis la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et avec le réseau de ravitaillement de Nantes qui s'appelle la Cagette des Terres et qui s'est créée juste en 2018, en même temps que nous. Et nous, on a emboîté le pas parce qu'on allait beaucoup sur la ZAD et on a rencontré plein de paysans sur place qui allaient ravitailler les mouvements sociaux en ville. Et voilà, nous, on avait plusieurs cantines de lutte à Rennes. Et il y a un groupe qui s'est posé la question d'arrêter d'aller faire ses courses à promo cash au moment où on organisait nos cantines. Et on s'est dit qu'on avait envie d'aller faire du maraîchage, de produire nos légumes pour ravitailler les luttes. Et ça a donné le réseau de ravitaillement des luttes en pays nantais, en pays rennais. Pardon. Voilà pour la petite histoire de la création du RDR. Je pense que je vais pas aller plus loin et peut-être que chaque intervenant peut faire un petit peu comme moi, je crois, c'est ce qu'on s'était dit. Cinq ouais, minutes
je sais
de
pas si, Nicolas, la suite pour nous présenter un peu notamment Beauregard.
Oui, bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc comme Charles a dit, moi je suis vigneron dans les Corbières. Ça fait 26 ans que je suis installé ici sur un domaine qui est familial. Et quand on s'est installé avec Karine, on a porté l'idée de la diversification. Enfin, voilà, nous on est vraiment une région de monoculture dans un environnement vraiment où l'agriculture industrielle trouve son modèle le plus abouti avec la viticulture. Donc on a eu cette perspective de diversification, mais ça a été très dur parce qu'il y a eu beaucoup de choses à faire sur le domaine là pour changer le modèle de production, et puis ça s'est fait pas à pas parce qu'il faut voilà c'est un long parcours quoi, c'est un très long parcours. Donc ce modèle de diversification, ben on a pu finalement l'asseoir, mais pas par nous-mêmes. Bien sûr, nous on a des moutons depuis une vingtaine d'années, mais c'est pas vraiment une production qu'on a pu dégager. Mais par contre, il y a un berger, un éleveur qui s'est installé sur le domaine avec un troupeau ovin. Et donc, ben voilà, ça a été une façon de réaliser ça. En chemin, on est devenu sociétaire de l'atelier paysan et on contribue vraiment activement à la diffusion du projet politique de l'atelier paysan, qui est pour asseoir une autonomie technique des paysannes et des paysans, mais plus largement qui questionne l'autonomie alimentaire de l'ensemble des mangeurs. Et on pense à l'atelier paysan, voilà, qu'il faut jamais dissocier la question agricole de la question alimentaire. Les paysannes et les paysans, ce sont celles et ceux qui font notre nourriture. Sur le domaine, on a structuré aussi une asso en 2013, qui a eu une évolution. Au début, c'était vraiment pour faire des événements avec beaucoup de bénévoles, des gens du village. Et puis petit à petit, en fait, on a recoupé cet asso avec le projet politique qu'on colporte à l'atelier paysan, et ça a donné naissance l'an dernier au tiers-lieu paysan Beauregard. Où on fédère des paysannes paysans des Corbières, mais pas que. Dans l'idée dont je vous ai parlé par rapport à l'atelier paysan, l'idée c'est que ce soit pas un mouvement corporatiste. Et du coup d'associer les habitants du territoire à ce projet qu'on porte de transformer les Corbières. Et a surgi, comme l'a dit Chat, on a eu une action très spéciale avec les feux. On a subi en fait un cataclysme, nous, cet été, avec 5 grands feux, dont un immense, qui est un des plus grands feux jamais recensés en France depuis qu'on les recense, de la seconde moitié du XXe siècle. Donc 5 grands feux, ça a commencé à la fin du mois de juin, et là on est assez vite rentré en action autour de ce sujet de l'élevage. Je vous ai parlé de ce qu'on réalisait chez nous. Nous, on pense que l'élevage c'est un moyen d'envisager la sortie de la monoculture de la vigne. On pense aussi que c'est un moyen de préserver le territoire, par exemple par rapport au feu. Donc on a rédigé une tribune qui s'appelle l'élevage extensif pour reprendre la terre au grand feu, et ça on l'a fait dès les premiers feux. Et quand le dernier feu a pris, donc c'est celui-là qui était vraiment immense, il y a une action qu'on a menée, d'abord en portant assistance avec les camarades de la conf aux éleveurs qui étaient dans le secteur du feu, par la distribution de foin, par la distribution d'eau, par aussi parfois sortir des troupeaux et de les amener par chez nous. Et dans les premiers jours, en fait, on s'est structuré comme une base arrière de ce sinistre. À partir de là, on a fait de l'appel aux bénévoles, et il y a beaucoup de gens qui sont venus. On faisait de l'accueil bénévole tous les jours, tous les matins à 8h. C'était un peu un délire, mais ça a duré comme ça 6 semaines. Et ensuite, en fait, on s'est pas arrêté de faire ça, on a continué à le faire. Simplement, on faisait plus l'accueil tous les jours, mais 2 fois par semaine. Et on a fait ça pendant 16 semaines. Donc, on s'est arrêté au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait ce qu'on appelle, nous, de l'arpentage. C'est des maraudes, en fait. On allait à la rencontre des sinistrés. Quand ils étaient chauds pour le faire, on engageait des chantiers. C'est des chantiers participatifs avec des bénévoles, d'autres sinistrés. Enfin, voilà. L'objectif de ça, c'était d'avoir un regard différent sur le territoire, de sortir vraiment de l'impuissance à agir dans laquelle tout le monde se retrouvait et finalement se retrouve par le collectif. Voilà. L'intention du tiers-lieu, c'est d'agir dans le territoire par la mutualisation, par l'entraide. Pour aller du coup sur de la diversification, mais nous c'est notre pointe agricole. Mais en fait, la diversification, si un jour on arrive à diversifier la monoculture de la vigne, c'est qu'on aura mené une véritable révolution, c'est qu'on aura transformé tout le territoire. Et juste pour finir, dans cette action feu, et pour rejoindre le sujet, quoi, il y a quelque chose de passé dans la base arrière, c'est dans la cuisine du tiers-lieu. C'est que ça a beaucoup cuisiné, parce qu'on a reçu beaucoup de dons. Nous, on a des camarades maraîchers qui sont membres de l'asso, et ils ont pas mal abondé au mois d'août. Il y avait de la production et ils nous ont apporté de quoi cuisiner. Et on s'est retrouvé, la cuisine, ça s'est retrouvé être vraiment le cœur vibrant de cette action. On a fait de la transfo parce qu'on n'était pas capable de tout manger. Quand je dis tout manger, c'est pas bon. On mangeait. Les bénévoles étaient nourris, mais on nourrissait aussi les chantiers dont je vous ai parlé. Et donc on a aussi fait de la transfo, ce qui nous a permis, comme le disait Charles, en fait, les actions qui durent, ce sont des actions qui sont nourries. C'est ce qui nous a permis de durer, de continuer de nourrir ces chantiers par la transformation, par la constitution du coup d'un grenier. C'est comme ça qu'on a appelé l'endroit où on stockait toute cette nourriture. Voilà, et je laisse la parole donc au suivant et je vous retrouve tout à l'heure.
Est-ce que côté grenier de Chinon, vous voulez nous raconter un petit peu ?
Oui, oui, carrément. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, nous, on est le grenier de Chinon. Et on est une dizaine de personnes dans les alentours donc, de Chinon. Et on cultive plus ou moins 2500 mètres carrés. Le grenier, il est né suite à la création du comité local des soulèvements de la terre qu'on a créé juste après Sainte-Soline 2, puisque juste après, on a organisé une soirée de soutien et suite à ça, le comité est né et assez vite, on a voulu commencer à cultiver ensemble, puisqu'on est à la campagne et qu'on avait des espaces à cultiver. Et aussi qu'on avait un peu d'expérience dans le jardin collectif, entre voisins, et qu'on avait envie que ça prenne un sens plus politique. Et donc, on a entamé la troisième saison. L'ail a commencé à pousser cette année, mais donc pour vous dire en résumé, on a cultivé des courgettes, de l'ail, des oignons, des patates, des betteraves, concombres. On a aussi cultivé des trucs qui n'ont pas marché, comme des radis, des navets. Enfin voilà, on n'est pas des maraîchers, voilà. On apprend en faisant hein, et avec tous les écueils que ça peut avoir et en même temps tout ce qui est et en même temps c'est un super endroit de rencontre pour la lutte et pour se rencontrer autrement pour ensuite aller partager nos idées ailleurs. Donc, nous, nos moyens, on peut dire que c'est déjà juste le groupe et son énergie. Vous voyez, comme je vous disais, on est une dizaine, donc c'est pour le coup, c'est pas un gros groupe. Donc voilà, ça fluctue selon les énergies et les envies et les emplois du temps de tout le monde. On a quelques outils mis à dispo qui sont tracteurs, motobineuses. On a nos petits outils aussi de jardin. Et on a le soutien des soulèvements de la terre et des cantines qui nous filent des thunes aussi pour acheter par exemple de la semence, des bâches pour bâcher à l'hiver, des toiles pour protéger les semences. On a eu aussi ces apports financiers qui sont aussi permis parfois par... quand on ramène nos légumes, voilà, il y a un petit échange comme ça qui nous permet ensuite de nous équiper pour continuer à produire des légumes. Bien sûr, le réseau paysan et la conf hein, sont des alliés nous aident beaucoup aussi autour de... Il y a un pépiniériste qui nous a fourni par exemple les betteraves, mais pas en semis, mais en plants, qui nous aide à faire pousser les patates et tout ça. Aussi, on commande des semences, via une association pour avoir des prix professionnels. Enfin voilà, on met en place tout un tas de petits outils comme ça qui nous permettent de payer moins cher et d'en faire plus pour qu'il y en ait pour encore plus de monde. Et on a aussi donc cette histoire de vente de miel et d'ail qui permettait de faire du soutien. Enfin, on l'a fait l'année dernière, de la mise en pot de miel de nos camarades apiculteuristes et qui ont permis de... En fait, on redonnait le prix coûtant du pot de miel aux apiculteurs et la marge, elle permettait de faire des recettes pour les comités qui revendaient les pots de miel. Donc voilà, c'était une manière de gagner un petit peu d'argent. Donc, pour en revenir au cœur du sujet, nous, on distribue vers les cantines des luttes. Hein, donc, ce qui nous a animé la première année, ça a été vraiment d'aller au village de l'eau avec une quantité de légumes. C'est ça qui a lancé notre mouvement. Et puis après, essayer d'acheminer quand il y a des rassemblements, soulèvements de la terre. Bien sûr, les manifs sur Tours, qui est la ville proche. Et puis, les associations aussi qui font à manger pour les personnes exilées ou les personnes en grande précarité sur Tours. Le squat, la MIP qui a ouvert depuis un peu plus d'un an aussi. Enfin voilà, trouver des débouchés pour que ces légumes servent à soutenir solidairement les personnes qui peuvent en avoir besoin. Et aussi, après, on a aussi fait des soupes pour le 10 septembre, pour la grève aussi, quand il y a eu une grève à la centrale. Enfin, voilà. Donc après, la question qui se pose, c'est
Excuse-moi de te couper, mais là, on voulait juste se présenter en 5 minutes et on pourra raconter plein d'histoires dans les perspectives politiques et tout ça, si tu veux.
Ok, il me reste une phrase.
Je te laisse finir.
Ça marche. Pour conclure, en fait, c'est en effet la question qui va venir ensuite, c'est que comment lutter depuis nos campagnes. Nous, on s'est dit qu'on allait répondre un petit peu comme ça, même si ça pose la question de comment faire pour continuer à être dans la lutte de différentes manières et que ça soit politiquement impliquant. Voilà. Je passe la parole à Arnaud.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors Arnaud, hein, je suis acteur à Rennes et syndicaliste à Sud PTT Ille-et-Vilaine. Et effectivement, la rencontre, Charlotte en parlait, c'est bien évidemment en 2018. Il se passe une réorganisation, on va dire, de trop chez les facteurs et factrices, à savoir intensifier le travail. On démarre. De grève, mais en tout cas on démarre à tête, on finit un mois de mai, un beau mois de mai, le 22 mai 2018, et sur ces 132 jours, bien évidemment, il fallait tenir par la caisse de grève et par nourrir la lutte, inévitablement. Donc c'est une rencontre avec le réseau de ravitaillement qui ne s'arrête pas là, parce que le milieu rennais, en termes de mobilisation sur la répression, sur le mouvement social, ce sont des rencontres qu'on fait au fil des luttes. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de nourrir, on a vraiment eu une lutte très active faite par les grévistes et avec cette disponibilité que permettait de récolter à travers des concerts de soutien, des caisses de grève, des cagettes et des journées fortes, parce que vous imaginez, en 4 mois et demi, on a eu un début de janvier tout frisquet à essayer d'étendre le bureau, la grève qui démarrait de 2 bureaux en quartier populaire de Rennes, sur Rennes-Morpa, Rennes-le-Gas et Rennes-Crimée à Rennes-Sud, d'aller faire des débrayages. Il nous fallait pouvoir tenir, y compris en mangeant, en ne se souciant pas toujours, tous les jours, de trouver les ressources et le temps pour le faire et d'avoir des soutiens. C'était très fort. et de la présence, parce que démarrer un piquet de grève à 17, puis à 20, à 30, à 40, c'est par les soutiens dans le milieu militant, des militants militantes. Et c'est clair et net que quand vous arrivez après la neige de février, après les mouvements sociaux de mars, parce que 2018, c'est une année assez riche, hein, il y avait aussi des cheminots en pleine bagarre, juste au mois de mai, où on finit à 250 à bloquer le centre de tri qui distribue tout le Grand Ouest, autant dire que c'est un grand merci à ce réseau-là, à tout ce qui s'est activé, mais on a gardé des liens très forts, très très forts. Moi, je me souviens encore quand on dénonçait l'exploitation de travailleurs sans papier dans les hangars de la Poste. On avait une soupe bien chaude servie par le réseau devant la plateforme Coïd de Rennes. Quand on a des initiatives sur la répression, on est au coude à coude dans les cortèges de tête, dans les capacités à résister de toutes sortes à comment criminaliser tel ou tel militant, militante. Bref, on vous la fait pas. Rennes, c'est un milieu quand même où il y a souvent des mobilisations, dont on s'y retrouve. La disponibilité, ça nous a permis quand même pour des collègues, la plupart urbains, de se rendre disponibles pour aller à la ZAD, non seulement parler de notre grève, mais légitimer la présence d'un guichet mobile de Poste et de légitimer toutes les luttes et résistances. En fait, c'est vraiment une lutte où le temps disponible, c'est le temps de grévistes, pourtant avec des journées fortes, hein, parce qu'il fallait débrayer dans les quatre coins du département, du temps disponible pour discuter de toute une série de choses autour de la société, autour de l'autorité, autour bien évidemment de l'exploitation. Et autant dire qu'en 2018, on regarde dans le rétroviseur, on avait des situations moins hardcore qu'en 2026. Si on regarde un peu le monde, c'est peut-être la discussion qu'on va avoir après, comment on voit les choses. Si on prend le monde va en guerre, le droit du travail, comment il prend un coup, l'environnement, etc. Mais les liens sont restés forts depuis 7 ans. Et puis ce qui est à noter quand même, c'est que c'est une lutte victorieuse quand même. Parce que l'idée, c'était de faire marner les facteurs et factrices, non seulement travailler le matin, mais aussi l'après-midi, en n'embauchant pas. Et sur la ville de Rennes, bah, les facteurs et factrices, 7 ans après, ont gagné cette lutte-là. Ça n'a pas été simple. Avec des jeunes collègues qui avaient 5-6 ans de boîte, qui ne prenaient pas le temps de discuter et de s'emparer de leur quotidien. Donc c'était vraiment une séquence très forte. Et ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve dans toutes les luttes aujourd'hui, syndicalistes à suite PTT, mais aussi des postiers et postières, syndiqués qu'on gardait des liens forts avec ce réseau-là. Et bloquant tout, bien sûr, le 17 ans, on s'y retrouvait. Et toute une série de luttes. Mais voilà, bon, je garde des images très fortes, vous en doutez bien. Hein. Mais c'est une époque où ça partait en Ille-et-Vilaine, sur ces luttes spécifiques au métier de la distribution. Puis dans les Bouches-du-Rhône, puis en Ile-de-France, puis en Gironde. On avait vraiment une séquence où l'idée, c'était d'étendre, et de concerner le plus en plus de collègues. Et inévitablement, quand les ressources, y compris la nourriture, n'est pas entièrement à la charge des gens en lutte, c'est un bien fou. C'est pas seulement une question monétaire, hein, parce qu'il y avait aussi les cas graves, bien évidemment, mais c'est important de se sentir soutenu par d'autres réseaux. Et je pense que ça a laissé des traces dans toute une catégorie de mes collègues et camarades urbains, d'avoir vraiment un temps. Je crois même qu'on allait faire un peu des champs, d'ailleurs, un peu des travaux des champs après, il me semble, après ces luttes-là. Mais en 7 ans, je pense qu'on a tissé des liens qui n'ont pas l'air naturels, on va dire, entre des luttes de salariés, ouvrières, très, on pourrait dire, classiques, et des réseaux... se posant des questions sur l'alimentation, sur l'environnement, sur toutes ces questions-là. Et donc ça, c'est très fort. Reste à voir aujourd'hui dans quel état du monde nous sommes, dans l'Hexagone et ailleurs, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On a tout qui nous ramène au triomphe des égoïsmes et de partialiser, de ne pas tisser de liens. Il n'y a pas beaucoup d'événements très fédérateurs qui dépassent un dénominateur commun qui soit plus large que son identité, son travail, son milieu. Et 2018, pour ça a dépassé un peu les frontières. Je m'arrêterai là-dessus pour les discussions à venir.
Du coup, merci beaucoup. On va attaquer dans le dur un peu pour parler des enjeux politiques du ravitaillement des luttes. Moi, pour dire deux mots un petit peu techniques de comment est composé le réseau de ravitaillement des luttes de Rennes, on est une douzaine en réunion hebdomadaire, mais je dirais qu'il y a entre 30 et 40 personnes qui sont réparties dans trois commissions différentes. Il y a une commission maraîchage, où on produit des légumes maintenant avec les greniers des soulèvements de la terre. On a fusionné un petit peu les deux dynamiques. On a une parcelle avec 4000 m2 de terrain. Et on fait un chantier public par mois où il y a entre 50 et 80 personnes qui viennent. Donc ça, c'est côté production maraîchère. On a une commission cantine, du coup, qui fait une cantine hebdomadaire dans un lieu associatif à Rennes et qui se déplace sur différents événements, dans les manifs, qui répond à différentes sollicitations et sur les grosses mobilisations comme celle des soulèvements de la terre avec d'autres cantines de l'Ouest. Et enfin, la troisième commission, c'est la commission distribution alimentaire, où on récupère différents légumes chez des maraîchers du coin, et on a des plans récup assez importants de plateformes bio. Et du coup, on organise des distributions alimentaires où les collectifs militants viennent en priorité se servir. Et ensuite, il y a à peu près 150 foyers qui viennent chercher des légumes et des produits bio. Donc ça, c'est un peu pour le côté technique. Et les enjeux politiques qui secouent un peu le réseau de ravitaillement depuis son origine, c'est qu'on en est aussi entre être un groupe politique ou un simple outil. Et on pense toujours, on n'arrive jamais trop... En tout cas, ce qu'on n'a pas envie d'être, c'est un simple prestataire de service. On n'a pas envie d'être les cantiniers ou les maraîchers des luttes, mais bien de porter des enjeux politiques à l'intérieur des luttes desquelles on intervient. Et ce qu'on peut raconter, en tout cas en termes de réussite, on viendra sur les limites plus tard, peut-être dans une seconde partie, mais les réussites vraiment qu'on a vues, c'est que au fur et à mesure de nos ravitaillements, au fur et à mesure des mouvements sociaux, on a ravitaillé par exemple les cheminots pendant les deux mouvements des retraites en 2020 et en 2023. Et à chaque fois, du coup, nous, on a apporté nos légumes de récup, mais on essayait de faire venir la Confédération paysanne qui venait parfois, du coup, avec leurs propres produits, avec leur pâté, leur yaourt, leurs légumes, leur pain. Et ces moments-là, ils étaient toujours plus forts quand c'était des producteurs qui apportaient leur production propre que nous, nos légumes de la récup, quoi, des poubelles un peu du capitalisme. Et du coup, on essayait de distinguer bien, c'était pas les mêmes produits, quoi. Quand c'est un maraîcher qui apporte sa production propre, c'est pas exactement pareil que nos récup à nous. Et en quoi c'est une réussite, c'est que là, par exemple, le 10 septembre, c'est qu'on était toujours en train de, pas de supplier, mais d'aller chercher la conf pour qu'ils viennent ravitailler avec nous. Et cette année, c'est la conf qui est venue nous chercher. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est bon, on a marqué des points. Là, c'est eux qui, dès le 10 septembre, ils nous ont dit, nous, on va ravitailler l'hôpital public, le piquet de grève de l'hôpital public de Rennes. Je crois le 18 septembre, ils nous ont dit, ah, on va ravitailler les étudiants. Et on était trop heureuses de ça, parce qu'on s'est dit, bon, voilà, les liens, ils sont faits. Et ça, maintenant, c'est un peu un réflexe pour les camarades paysans et paysannes de la conf de venir et de ravitailler les luttes en ville. Et maintenant, dans les perspectives, ce qu'on aimerait, c'est que maintenant, par exemple, les cheminots, en tout cas, toutes les personnes qui sont ravitaillées viennent sur les mobilisations agricoles soutenir les paysans quand ils bloquent des ronds-points. Ça serait une vraie victoire. Est-ce que je peux raconter une autre anecdote qui souligne un peu les enjeux politiques et des liens qu'on crée grâce au ravitaillement des luttes? C'est... lors de la dissolution des soulèvements de la terre, on avait organisé un meeting public à Rennes en soutien au soulèvement depuis le comité rennais. Et du coup, on est plusieurs à avoir la double casquette, à être au grenier des soulèvements et au réseau de ravitaillement. Et du coup, on avait invité plein d'organisations, mais comme plein de monde l'a fait dans plein de villes en France. Et les camarades de la CGT cheminots et les camarades de Sud PTT sont venus pour soutenir les soulèvements. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'était aussi en partie parce qu'on s'était rencontrés sur les piquets de grève et grâce au ravitaillement que cette rencontre et ce soutien, c'était une évidence, quoi. Et bon, c'était vraiment beaucoup d'émotions quand les camarades Arnaud et les camarades de la CGT cheminots venaient défendre les soulèvements parce que on se regardait dans les yeux et c'était, il y avait un vrai voilà, de message de solidarité qui passait. Et la rencontre, voilà, elle avait eu lieu grâce au ravitaillement sur les piquets de grève. Et cette solidarité, elle a été marquée à plein d'autres moments ces dernières années. Mais en tout cas, ça, c'était une très chouette situation. Voilà. Ce que je peux raconter pour les enjeux politiques, je pourrais revenir après sur les limites qu'on rencontre. Mais je sais pas, je passe la parole. Si vous avez envie de raconter des histoires.
Je ne sais pas si Arnaud, toi, tu veux nous raconter aussi le point de vue suite PPT, comment ça s'est vécu, est-ce que ça laisse des traces et tout ce qui s'est passé politiquement à ce moment-là, justement, avec le RDR aussi.
Oui, oui, parce que quand on est sur du syndicalisme, on va dire anticapitaliste, on n'a pas trop l'habitude de faire juste des trucs traditionnels plomb-plomb. Comme je vous disais, quand on parlait de cette grève en 2018, c'est un peu notre mood, même après, on s'arrête pas à dire c'est le syndicat qui débute une lutte, c'est le syndicat qui siffle la récré, c'est le syndicat qui négocie au nom des gens. Donc plus on trouve les moyens de tisser des liens et de bouger et de laisser en fait les mouvements soit jusqu'au soulèvement de la terre, décider de la marche à suivre pour faire vivre la dynamique, nous, ça nous plaît. On aime l'idée de la démocratie directe, diraient certains, mais donc ça, de façon normale, nous, on baigne là-dedans, dans l'idée que chaque mouvement doit avoir sa propre dynamique. On n'a jamais cru qu'on appuyait sur un bouton pour organiser des choses. Donc ça, c'est important, voilà. Et ça, on le cultive, et c'est le cas de le dire, on le cultive, et inévitablement tous les aspects de la société, sur la répression, sur comment les oppressions, sur le racisme, sur le monde policier, sur le monde va-t-en-guerre, sur le productivisme débile et comment écocide, on s'y retrouve. On n'a pas découvert à travers le réseau de ravitaillement toute une série de problématiques. Par contre, inévitablement, des collègues, quand ils prennent le temps, lorsqu'ils luttent, je le redis, eux prennent le temps de discuter et de tisser des liens. Donc oui, c'est, j'ai l'impression que c'est le béaba, mais on doit étendre et se mobiliser dans nos diversités et même y compris de pratiques de lutte. On doit bouger ensemble et frapper ensemble pour non seulement se défendre mais revendiquer un autre monde. Donc on est à notre place quand on discute avec toutes les myriades de mouvements qui émergent de vos générations. Moi, je me sens entre deux eaux, le temps passe, de vos générations à tisser des liens avec les luttes à la ville, les luttes ouvrières, et les luttes paysannes, inévitablement. C'est-à-dire, tout ce qui nous ramène malheureusement à des solutions de division nous ramène à se faire désinguer les uns les autres dans nos droits et dans nos manières de pouvoir vivre correctement et de ne pas se laisser bouffer, quoi. Aussi bien par l'économie que par ce qu'il y a dans nos assiettes, quoi.
Merci Arnaud. Et je me disais aussi au grenier, vous avez mis vraiment la pratique des greniers au service de certaines luttes et même avec des rapports parfois conflictuels avec la mairie. Il me semblait que vous me racontiez ça et je me demandais si vous voulez nous en parler un peu plus de comment justement la culture s'est mise aussi au service de la lutte dans votre coin. Je ne sais pas si les greniers de Chinon, vous voulez raconter un peu ça. Est-ce que vous êtes encore là et vous nous entendez?
Oui, on est toujours là. On était en train de rebrancher l'ordi. Nous, on n'a pas spécialement de problème avec la mairie, mais nous, ce qui a été structurant pour nous dans notre comité avec le grenier, c'était vraiment le fait que ça nous a permis de mener des chantiers tout au long de l'année et de se voir régulièrement. Et du coup, c'était assez structurant pour notre groupe. Ça permet de se voir dans des endroits où il n'y a pas spécialement de répression, où on n'est pas en speed et tout ça. Du coup, on prend vraiment du temps d'être tous et tout ensemble. Et du coup, ça, c'était super. Au-delà de ça, on avait quand même vraiment une envie que nos légumes, ils aillent avec nous sur des moments de lutte qui soient impactants, offensifs. Et du coup, en tout cas, nous, le premier gros objectif, c'était le village de l'eau. Et du coup, ben, d'y aller tout ensemble et de passer la semaine là-bas, d'aller sur les moments de manif, mais aussi d'être présent sur le village. C'était quelque chose d'assez structurant, mais du coup, ça, c'était la première année. Et là, aujourd'hui, on a un peu envie aussi de faire des choses sur notre territoire. Et du coup, on a été présent avec des soupes et des petits marchés de légumes à prix libre, ben, sur des moments comme le 10 septembre ou des moments de grève, tout ça. Et du coup, c'est voilà, on espère petit à petit faire des liens avec les syndicats sur notre territoire. Après, on est conscient qu'on est à Chinon, hein, on n'est pas à Rennes, hein, ça reste une petite tambrousse. Et du coup, ce n'est pas un grand territoire de lutte. Néanmoins, là, il y a un projet de bassine près de chez nous qui va sans doute se relancer. Et du coup, ben, on espère que qu'on va pouvoir un peu ramener d'autres gens sur les rassemblements qui vont s'organiser autour de cette lutte-là. Voilà, après, les petits trucs un peu marrants qu'on a fait, c'était sur 2 mois d'aller à un rassemblement organisé par les ouvriers de la centrale. Et puis, le mois d'après, d'aller faire une soupe pour un rassemblement anti-nucléaire. Et du coup, bah voilà, j'espère que ça va amener aussi des espaces de discussion et de confrontation. Voilà, ça c'est un peu une petite anecdote. Et après, oui, nous on est bien en lien avec la Confédération Paysanne du 37, avec pas mal d'agriculteurs. Et le miel aussi des greniers est né de ces rencontres-là, avec des apiculteurs qui nous ont soutenus et qui mettent à disposition leur production pour qu'on la vende au nom des greniers. Enfin, de toute façon, c'est des apiculteuristes qui font partie de notre collectif. Hein. Voilà, on reste un peu la même bande. Et puis pareil, par rapport à ce que disait Charlotte aussi, ben oui, nous, on est très, très motivés de faire le grenier, d'avoir des légumes et de pouvoir amener de la subsistance sur les luttes. Mais on a vraiment aussi envie de pouvoir être à d'autres endroits et de ne pas finir maraîcher des luttes. Voilà, en tout cas, on a envie de. C'est vraiment une question qui nous taraude. Parce que c'est assez technique et exigeant de mener le grenier tout au long de l'année.
Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que Nico, tu veux nous raconter un peu ce que ça a permis en termes de rencontres aussi sur votre territoire, ce truc de ravitaillement, de réseau d'entraide avec vos voisins, vos pays agriculteurs conventionnels, autres vignerons, et les liens que ça permet de créer quoi, avec des gens qu'on vous auriez pas forcément rencontrés depuis le tiers-lieu.
Ouais, carrément, ouais, nous, en fait, on organise des journées de mobilisation. On en a fait 3 depuis le printemps dernier. La dernière, c'était le 10 janvier, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps, quoi. Et dans ces mobilisations, on choisit en fait soit de faire des mobilisations plutôt paysannes, soit populaires, soit pour la. Enfin, ça, on envisage pour plus tard, mais pour la culture, en fait, on pense que les rapports de domination, nous, qu'il y a dans nos territoires, enfin, dans nos corbières qui concernent les sujets de la culture ou du monde paysan, en fait, c'est un peu les mêmes ressorts qui sont activés. Et aussi de faire des mobilisations par les luttes. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que bien sûr, on est engagé dans des dans les luttes de notre premier cercle militant où on est actif. Bon, mais il y a des luttes. Bon, à la limite, je vais pas trop parler de ça, quoi. J'ai plutôt passé à autre chose. Ça, c'est peut-être assez intuitif, quoi. Nous, par exemple, aussi. Donc, je passe à autre chose que le premier cercle militant, quoi. C'est les mobilisations agricoles. Nous, les mobilisations agricoles ici, on est dans un. Alors, c'est un peu partout le cas, hein, évidemment. Le modèle dominant, c'est la FNSEA. Mais ici, c'est très, 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 très dominant. C'est dominant à un point que ça efface tout ce qui pourrait exister d'autre. Et que finalement, quand il y a ce type de mobilisation de viticulteurs, il y a un syndicat, on appelle syndicat des vignerons, mais c'est la FNSEA qui est derrière. Quand il y a ces mobilisations, la conf, ils sont pas habitués à aller sur ces mobilisations-là. Certainement parce que ils sentent pas encore bien comme ça. Nous, on pense qu'il faut être présent en fait sur ces mobilisations. Il faut laisser aucun espace. Il faut porter nos propositions politiques. On en a plein avec l'agriculture paysanne. Et c'est pas question de faire alliance, en fait. Si on va sur ces mobilisations-là, c'est pas pour faire alliance avec qui que ce soit. Au contraire, c'est pour développer des arguments. Et puis généralement, on pense qu'il faut provoquer la conflictualité et organiser des espaces pour ça. C'est encore une façon de se parler que de se retrouver sur des tribunes ou des tables rondes où il y a aussi des représentants des JA, où il y a aussi des représentants de la FNSEA. Il faut les organiser parce qu'en fait, ça se structure pas spontanément, quoi, ces situations-là. Ensuite, la mobilisation par les luttes, c'est aussi être là quand il y a des mouvements sociaux qui sont pas des mouvements agricoles. Comment ça se fait que dans notre région il y a tant de tracteurs en fait dans les manifs par exemple, quoi. En fait il y a pas de tracteurs, quoi. Donc je sais pas où ils sont les paysans de gauche. Il y a pas cette idée que ouais c'est bon, on peut y aller avec le tracteur. Et donc on essaye de changer un petit peu les regards sur les façons de se mobiliser. Et nous, on y va avec notre tracteur. Enfin, par exemple, le 10 septembre, tout ça, c'est en train de se structurer. Hein. C'est pas qu'on y va depuis tout le temps, quoi, bien sûr. Mais par exemple, au 10 septembre, on y est allé nous avec un tracteur et on a mis un bon sbeul avec ça. Et je pense que ça ouvre plein de perspectives, quoi. C'est un autre regard qui est porté entre la ville et la campagne. C'est aussi un côté festif parce qu'effectivement, si on arrive en ravitaillant, bon, alors nous on fait du vin, donc ça c'est quand même aussi vachement approprié à créer une ambiance, à partager un moment et à faire la fête, quoi. Et donc ça se passe plutôt bien, quoi. Donc ça c'est cette idée de porter des tracteurs dans les mouvements sociaux en général, ça se pratique pas chez nous et je pense que c'est vraiment un truc à développer. Certes, et ça nous amènera ensuite aussi à être plus avec nos tracteurs quand il y a des mobilisations agricoles au sens large qui sont portées je sais pas moi par les JA ou par les FNSEA. Et la réflexion inverse, c'est de se dire comment on peut faire pour embarquer des syndicats de salariés du coup dans ces mobilisations agricoles, parce qu'en fait c'est des endroits où les salariés sont complètement invisibilisés, quoi. Nous, c'est sûr que dans nos campagnes, il y a plus de salariés que d'agriculteurs au sens employeur, quoi. Aussi on se pose la question de comment activer ce levier-là, quoi. Voilà pour parler des luttes en général et de comment de comment comment nous on envisage l'engagement, quoi. C'est vraiment en étant présent, quoi. Ouais. De pas laisser à penser que ce modèle, ok, il est dominant, mais il n'est pas tout seul, quoi. Il y a une autre type de viticulture, il y a d'autres façons de faire du vin, et puis surtout, il y a d'autres choses que du vin qu'on peut faire, quoi. Voilà. Donc nous, mobilisation agricole, c'est synonyme de mobilisation viticole, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à casser, enfin diversifier. C'est démanteler ce système-là, ça passera aussi par être dans le rapport de force et d'être présent ces jours de mobilisation. Voilà ce que je peux dire sur les luttes.
Trop bien. Merci Nico. Moi, je veux bien répondre vite fait à la question qui a été posée dans le chat et après enchaîner sur les questions qu'on se pose en ce moment au réseau de ravitaillement. Sur le type de culture, nous, en fait, on choisit de cultiver des légumes qui sont assez faciles, comme des pommes de terre, des oignons, des courges, des poireaux, où en fait, un passage par mois à 50, ça suffit, il n'y a pas besoin de venir tous les jours, comme des courgettes ou des tomates. Voilà. Mais en fait, il y a plein de greniers différents. Le grenier de Chinon, ils vous ont raconté, ils fonctionnent un peu différemment. Et il y a aussi des producteurs qui décident par exemple de mettre 5% de leur production pour les luttes. Et après, on passe chez pas mal de camarades paysans, paysannes qui nous filent des légumes qui, eux, ne peuvent pas vendre. Des légumes qui sont abîmés ou qui sont... ou la surproduction. Je sais que les greniers en Ile-de-France font beaucoup ça aussi parce qu'ils ont peu d'accès à des terrains. Et voilà, il y a des greniers qui décident plutôt de faire de la récup auprès de producteurs professionnels. Et pour enchaîner un peu pour rentrer un peu sur plus des détails techniques, mais avec des questions tout autant politiques, on a remarqué, du coup, il y a eu l'appel des greniers en 2023, et depuis, il y a une trentaine de greniers des soulèvements qui se sont créés partout sur le territoire. Il y a une carte sur le site des soulèvements si vous voulez regarder et vous rapprocher du grenier le plus près de chez vous. Et depuis les résistantes, depuis le mouvement Bloquons tout, là, de la rentrée 2025, on a remarqué qu'il y avait plein de collectifs qui avaient émergé, comme des mutuelles de matos, des cantines de lutte, des réseaux de ravitaillement. Mais on trouvait ça trop chouette depuis notre espace, que ça pop de partout et que ça devienne un réflexe et une évidence pour plein de collectifs, plein d'AG de lutte, de créer ces bases arrières-là pour les mobilisations. Mais comme on l'a déjà dit au premier webinaire, on en éprouve aussi les limites à certains moments parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des super cantines, mais que la manif, elle est toute pourrie derrière. Et on se disait que le réseau de ravitaillement, ça a été longtemps une porte d'entrée pour plein de militants. Et qu'aujourd'hui, avec la répression des mouvements sociaux, on a l'impression que ça devient une porte de sortie, qu'en fait il y a de très bonnes raisons d'être en base arrière ou de cultiver des légumes, c'est qu'en fait c'est souvent des moments très conviviaux où on parle de l'entraide, de la joie, mais on se dit qu'il faut pas qu'on abandonne pour autant la construction des luttes, parce que des fois nous on se retrouve avec des légumes mais il n'y a pas de lutte à ravitailler. Et du coup, ça part à la distrib et alimentaire, et on trouve ça dommage. Voilà. Du coup, c'était un peu ce qu'on avait, un point de vigilance avec les camarades du RDR qu'on voulait apporter ce soir. C'est que c'est super de créer des greniers, des soulèvements, des réseaux de ravitaillement, des cantines de lutte. Mais faut pas oublier que le rapport de force, il se construit dans les AG. Les AG interpro ou les comités de mobilisation, et qu'il faut pas déserter ces espaces-là. Nous, des fois, voilà, un exemple qu'on donne souvent, c'est qu'il y a 80 personnes en chantier maraîchage, et on dit, le midi, on mange tous ensemble, on dit, si vous voulez, il y a une action qui se prépare à la fin du mois, on peut vous filer des infos, il y a que 2 personnes sur 80 qui viennent chercher des infos. Et nous, on trouve ça trop dommage parce que voilà, encore une fois, on n'est pas juste maraîcher, déjà on n'est même pas maraîcher tout court, mais on veut pas juste être, produire des légumes pour les luttes, on veut y participer, les construire. Et voilà, c'est une réflexion qu'on a, c'est des questionnements, il n'y a aucun jugement parce que nous on est très heureux de faire tout ce qu'on fait, mais voilà, c'est des questions qu'on a en ce moment. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, les camarades, sinon on peut répondre à des questions aussi, ou s'il y a des interventions parmi les gens qui assistent à la visio. Claude, je ne sais pas où tu voulais, comment tu voulais qu'on enchaîne.
Et ben ensuite, il y avait un peu la question des perspectives, limites et perspectives que chacune a prévues aussi dans son réseau. Et je sais que quand on avait un peu discuté pour préparer ce moment à Chinon, vous nous parliez de la SSA aussi et de comment. Vous alliez aussi peut-être un peu dans ce sens-là. Nico aussi, tu parlais de multiplier les initiatives et les liens. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot chacune.
Eh ben, nous, sur Chinon, en fait, vu que venir avec des soupes et des paniers de légumes, ça nous donne une visibilité. Ça nous a permis de rencontrer le collectif qui s'occupe et qui est en train de monter le projet de SSA. Et du coup, c'est un peu une rencontre un peu naturelle qui s'est mise en place avec eux. Et là, ils organisent une journée en juin sur l'alimentation. Et du coup, ils nous ont proposé de venir faire une soupe. Et moi, j'aimerais bien essayer que... qu'il y a un échange entre guillemets et que des personnes de ce collectif-là viennent dans notre jardin. C'est des personnes qui bossent beaucoup sur les quartiers sociaux de Chinon. Et du coup, je trouve que ce serait assez intéressant qu'on puisse se rencontrer et que peut-être aussi les gens de ces quartiers-là ils puissent aussi sortir de Chinon et venir dans la cambrousse autour pour cultiver avec nous. En tout cas, ça, c'est des perspectives qui peuvent bien nous animer. Et puis qu'après, tout ce petit monde-là, ça fasse un petit boulga et qu'on puisse, qu'on puisse aller en manif, se retrouver sur des blocages, tout ça. Après, voilà, ça, c'est des perspectives un peu de rêve pour l'instant. À Chinon, on n'en est pas là. Mais voilà, là où on en est.
Trop bien, merci beaucoup. Il y a une question pour les greniers, mais sinon, vas-y Nico, et on répondra juste après.
Ouais, mais moi, ce que je pourrais dire, c'est souvent on questionne comment ça marche en fait de faire collectif. En fait, en tout cas. Nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a bien quelque chose qui a pris. Et ce qu'on se dit, c'est que ce qui marche bien là, dans les Corbières, c'est qu'en fait, on fait collectif autour d'un projet politique, quoi. C'est ça le ciment. Et du coup, l'écueil, ce serait de s'éloigner de ça. Et en fait, il y a plein de choses, et surtout quand ça marche, en fait, dans l'enthousiasme de l'action, qui peuvent amener à s'éloigner de ces trucs-là, quoi. Par exemple, juste pour dire dans l'action feu, ce qu'on a fait, c'est que une fois sorti de la phase un peu d'urgence, il y a eu la volonté de faire durer cette action-là. Par de la régénération, par le projet aussi dont je vous ai parlé sur l'élevage, puisque bon, développer l'élevage extensif et contribuer à ça, c'est une façon de préserver finalement le territoire pour qu'il y ait moins de feu. Mais donc dans les actions de régénération qu'on a faites, on a réalisé des semis. Sur les friches viticoles Bon, parce qu'il y a une déprise agricole très importante, c'est le principal facteur de feu pour nous, c'est les friches laissées à l'abandon, et c'est énorme, hein, c'est dans le territoire, dans le département en général, c'est la moitié des surfaces agricoles qui ont été viticoles qui ont été abandonnées ces 40 dernières années. Donc, beaucoup de friches, souvent en périphérie de ce qui est devenu les zones de production, c'est-à-dire à l'interface avec le milieu naturel. Et c'est des vecteurs de friche. Donc ça, on avait un programme de semis, mais c'était un programme politique en fait. Le programme, c'était de reprendre les friches. C'était sur ces terres qui ont été abandonnées par l'agriculture industrielle d'aller semer. C'est offrir la perspective d'avoir des pâturages et donc d'aller dans le sens d'un accompagnement des éleveurs qui sont en place. Et donc c'est cette action de semis. Ben l'objectif aussi, c'était pas de faire à la place d'eux, quoi. C'était pas de faire des semis soit qui auraient pas l'approbation des propriétaires, soit de gens qui disent ouais, ok, c'est cool, venez semer chez nous. En fait, ce qu'on veut nous, c'est les engager dans ces réalisations-là. Et même ça, c'est pas suffisant, quoi. C'est qu'ils deviennent des éléments de la chaîne de solidarité. Au sens où ils vont aller chercher d'autres surfaces, convaincre leurs voisins qui jamais auraient laissé nous auraient laissé semer, quoi. Voilà, ça c'est ce que j'appelle en fait le lien au projet politique. Voilà, l'idée, l'objectif, il n'est pas technique en fait, il est politique, il est de changer le regard que les personnes qui sont engagées dans ces semis peuvent avoir sur le territoire par rapport à la perspective de le changer, de le transformer, de dire ben en fait c'est possible, quoi, si on se met ensemble collectivement, on peut engager des et du coup l'écueil, ce serait de sortir de ça, ce serait que porté par l'enthousiasme on se dise ah ben on va même aller semer chez ceux qui seraient pas d'accord, quoi. En fait ça a plus aucun sens, quoi. Et du coup ça devient une façon de lutter, ou en tout cas d'apporter de la transformation par la construction, quoi, par des réalisations. Voilà, juste un témoignage en fait qui mixe un petit peu du coup l'écueil et puis ce qu'il faut arriver à faire. Et si on se met à faire les choses et que c'est plus connecté à notre objet politique, en fait ça n'a plus aucun intérêt, quoi. C'est juste qu'on serait là à animer des bénévoles, des personnes, ce serait une façon en fait de voilà. Donc nous, systématiquement, à chaque chantier, à chaque accueil bénévole, à chaque fois qu'on s'engage, on rappelle l'intention politique et on ramène l'action à cet objet-là. Voilà ce que je peux dire là-dessus.
Merci Nico, c'est exactement pour ça que je voulais que tu que tu viennes, c'est pour dire tout ça. Si on veut aller vers la fin et du coup vers un peu les conseils techniques à donner pour créer un réseau de ravitaillement, j'arrive pas à aller dans le purement technique. En fait, ce sur quoi j'ai envie d'insister, moi, c'est que en effet, quand on va ravitailler, il faut toujours qu'il y ait des personnes qui fassent la logistique, qui sortent les cagettes, qui constituent les sandwichs et tout ça, mais il faut toujours penser, je sais pas, s'il y a besoin de 10 personnes, par exemple, nous, quand on sort la Zbelinette, qui est notre remorque de manif mobile en manif, voilà, il y a 3 personnes qui servent les boissons, il y a 3 personnes qui montent les sandwichs, mais il faut toujours qu'il y ait une ou deux personnes qui soient à l'extérieur de la Zbelinette pour discuter avec les gens, pour filer des tracts, pour prendre les 06 des grévistes, pour expliquer comment on peut venir ravitailler. Et en fait, c'est un rôle des fois qu'on zappe parce qu'on est dans le faire, quoi, dans l'agir, dans le concret. Mais en fait, c'est on l'a vu sur les piquets de grève. On est allé ravitailler un piquet de grève à Michelin, à Cholet. Et en fait, quand on arrivait avec nos légumes, les ouvriers, ils pensaient qu'on était les Restos du Cœur. Vous voyez, ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on venait faire avec nos légumes. Et quand on a sorti la table, on a posé les légumes et puis on était derrière nos tables, on attendait.
Ça, ça a coupé. Je ne sais pas si tu m'entends et si tu peux récupérer. On a une coupure au moment où tu racontais que vous sortiez les tables et que ensuite vous restiez derrière vos tables et on était en pleine histoire et bim, ça a coupé, c'était hyper frustrant. N'hésite pas à reprendre l'histoire.
C'est bon, vous me réentendez?
Oui.
Pardon. Je sais plus trop où j'en étais, mais en tout cas, c'était important d'aller se rencontrer et de leur expliquer que ces légumes, on les avait produits pour eux et que ça changeait tout dans la rencontre. Et une autre anecdote que les greniers Île-de-France nous ont racontée, c'est qu'ils sont allés ravitailler les ouvriers de la logistique sur le port de Gennevilliers, une entreprise qui s'appelle Géodis. Et c'est pareil, c'est que des ouvriers, c'est que des personnes racisées qui n'ont pas du tout le même discours politique que nous. Et en fait, les greniers d'Île-de-France, ils sont pas allés avec un a priori, la lutte doit être écolo pour qu'on aille la ravitailler. Et en fait, à force de rencontres, les camarades de géodistes, à la fin, ils disaient, parce qu'en fait, il y a un projet d'entrepôt géant qui s'appelle Green Dock sur le port de Gennevilliers et qui menace une zone où il y a plein de cormorans au bord de la Seine. Et en fait, cette rencontre, ça fait qu'ils vont aller visiter les ouvriers de Géodis, ont demandé aux camarades des soulèvements de la Terre de les emmener voir les cormorans sur le port de Gennevilliers en disant, mais vous arrêtez pas de nous parler de vos oiseaux là, nous on veut venir les voir avec vous. Et moi je trouve que c'est trop une belle histoire parce que c'était pas dit quoi qu'il y ait cette sensibilité et cette rencontre qui se crée sur un piquet de grève. Voilà, ça fait des beaux échanges et les ouvriers de Géodis et les camarades des soulèvements de la Terre d'Île-de-France là construisent un contre-projet pour dire on peut faire de la logistique autrement, on n'est pas obligé de faire des méga canaux et des entrepôts logistiques géants alimenter l'Île-de-France. Voilà, moi c'était un des principaux conseils que j'avais envie de donner, c'était de dire il faut qu'il y ait des gens qui se dédient à ce travail politique-là. Et sinon, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat et tout ça, on peut vraiment répondre à des questions purement techniques sur comment trouver du terrain et tout ça, mais je ne sais pas si vous avez envie de ça ou si vous avez des réponses à ça.
J'ai l'impression qu'il y a peut-être les greniers de Chinon, vous pourriez nous raconter un peu comment vous êtes lancé au tout début, quoi, les petits trucs à mettre en place. Et sinon, il y avait une question directement visée aussi grenier sur un peu les prises de la répression que donne le lieu du grenier en tant que tel, parce que identifié par exemple comme ravitaillement de lutte, etc. Et en quoi, quels étaient enfin, les avantages du grenier par rapport à la récup, qu'est-ce que ça fait sens? J'ai l'impression que Charles a un peu esquissé ça tout à l'heure en disant qu'il y avait du lien supplémentaire qui se crée quand même quand on ramène bah, les légumes qu'on a fait pousser, etc., qu'il y a autre chose qui se crée, mais peut-être vous pouvez nous le raconter un peu pour répondre à la question là de CC dans le chat aussi.
De manière pratico-pratique, oui, bah déjà, il a fallu préparer le terrain, des frichets, voilà, préparer pour les cultures. Et puis, je crois que, en fait, ce que moi, je me dis, c'est que. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que c'est quand même assez exigeant. En effet, ce qu'il disait Moumouche tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, cultiver, c'est toute l'année qu'il y a des choses à faire, quoi. Même si à l'hiver, il y a moins de choses à faire, quand même, il faut envisager de nourrir la terre, aller soit chercher du fumier, bâcher, enfin. voilà, il y a à toutes les époques, il y a des choses à faire. Et en effet, quand il y a toute la question de quels légumes on cultive, sur la question de la conservation, hein, bien sûr, les pommes de terre, les betteraves, même les betteraves, c'est, ça se conserve pas si bien que ça. Et après, à l'été, quand arrivent les courgettes, il faut aller dans le jardin tous les deux jours récolter et avoir directement des endroits où les envoyer, où envoyer les légumes, ou bien nous on a eu des personnes alliées qui ont des chambres froides qui peuvent nous les conserver pendant un certain temps pour qu'ensuite on puisse envisager d'en emmener plus sur les événements où on veut en emmener des grosses quantités. Mais tout ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on découvre, enfin nous en tout cas qu'on a découvert en faisant, et qui sont des aspects en effet très techniques, mais qui surgissent et auxquels il faut répondre quand ça arrive, en fait. T'as un truc à dire ? Ah oui, non. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a tout ça. Et il y avait aussi toute la question de la distribution. Enfin, voilà, ça rejoint ça. C'est vraiment comment on se met en réseau avec les différentes luttes pour pouvoir... pour que à tous les endroits... l'information circule que tels légumes sont disponibles, comment on les achemine. Enfin, tout ça, pour nous, en tout cas, c'est des questions qu'on s'est pas mal posées.
On s'est posées, mais qu'on a aussi résolues. C'est-à-dire que sur des gros événements comme le village de l'Aube, il y avait des contacts avec les cantines, et du coup, on savait exactement les besoins. Et du coup, avec les différents greniers, il y avait une coordination qui permettait un peu d'estimer les quantités et les besoins des cantines. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Ce qui est peut-être plus compliqué pour nous, vu l'isolement de la cambrousse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des légumes entre les gros événements. Mais ça, on a fini par trouver, et c'est chouette, même si ça répond peut-être un peu moins à nos enjeux et nos envies de départ. Mais ça ouvre aussi des perspectives et des rencontres, donc ça, c'est super. Pour répondre à la question de la répression, moi, je sais pas trop quoi dire, parce que nous, le grenier, il est chez nous personnellement. C'est un terrain qu'on a acheté en SCI et que on avait envie de dédier à de la culture collective. Au départ, un truc de solidarité entre voisins voisines, et puis qui a muté sur des choses plus politiques. Je crois que j'ai pas envie de constamment le cacher. Bien sûr, dans le village, on va pas fanfaronner partout en disant que c'est le grenier des soulèvements, et peut-être que ça va se savoir un peu plus. Mais en même temps, c'est pas très grave. On fait pousser des légumes, et si pour d'autres besoins on a besoin d'être plus discret, ben on sait le faire aussi.
Mais c'est vrai que ça a posé la question de comment, entre guillemets, on recrute du monde, nous, chez nous, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la confidentialité, le niveau de confidentialité, etc. Et donc, voilà, ça a posé la question de comment on devient plus nombreux aussi, parce qu'il y a des besoins et tout le monde a des agendas de fou, donc des fois, on manque un peu de bras.
Voilà, donc on essaie de résoudre cette tension entre discrétion et envie de recrutement. C'est aussi ça qui fait la force du collectif, hein, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, et en même temps, c'est les aventures, quoi, c'est nos aventures collectives. J'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça, mais ça fait partie du game. Je ne sais pas, pour répondre aux autres questions, je pense que c'est bien de lister les moyens qu'on peut avoir à disposition, d'aller voir les paysans pour trouver des terres, et de se renseigner ou trouver du matériel un peu plus pro ou des semences en gros, quoi. Voilà, après, s'il y a d'autres questions, ça peut être cool. Et puis comme ça, on peut laisser la parole à d'autres personnes.
C'est sûr que nous, on a plein de greniers, plein de comités locaux. Quand on a fait le bilan des greniers cet été aux résistants, qui nous ont dit en fait les greniers ça prend tout le temps du comité et on fait plus que du maraîchage et on n'a plus le temps d'aller soutenir les luttes locales ou de construire des mobilisations. Et nous, à Rennes, on fait deux réunions séparées, en effet. Comme tu dis, Safia, on a des réunions greniers. Et à l'intérieur de ces réunions, on fait des réunions techniques et des réunions politiques pour savoir quelle organise. Parce qu'en fait, à chaque chantier, on mange ensemble et l'après-midi, on fait des discussions politiques. Et là, par exemple, pour la prochaine saison, on s'est dit qu'on avait envie de faire des discussions autour de la lutte des classes au sein du monde agricole. Du coup, on va faire un arpentage du bouquin de Bernard Lambert, « Les paysans dans la lutte des classes ». Et voilà, il y a une commission, il y a un groupe de travail politique à l'intérieur des greniers. Et à côté de ça, on a des réunions du comité tous les 15 jours, quoi, qui traitent de questions d'artificialisation, d'antifascisme, etc. Du coup, j'ai l'impression que si les gens ont l'énergie, faut séparer les deux espaces. Voilà, pour de notre côté, à comment on essaie de faire à Rennes. Et nous, on a la chance aussi d'avoir des maraîchers maraîchères qui nous ont prêté un bout de terrain tout près de la métropole. Et ce qui fait que les gens, ils peuvent venir en vélo, en bus de ville. Et du coup, on fait vraiment des chantiers publics. Et les camarades paysans qui nous filent les terres sont d'accord pour ça, quoi. Du coup, on organise même des soirées anti-répression sur la ferme. Et pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Mais parce qu'on on a des super camarades paysans qui sont à la conf et qui acceptent qu'on rende l'adresse de la ferme publique, quoi. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole.
Moi, je ne sais pas si côté Arnaud, Nicolas, vous aviez des choses à ajouter là-dessus. Non, c'est tout bon. Ok. Et sinon, il y a Jar, un moment, qui a levé la main pour éventuellement poser une question. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou si tu veux la poser dans le chat. Je crois que la personne s'est déconnectée. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et sinon, je ne sais pas si toi, Nicolas, tu avais peut-être aussi des conseils sur le fait de maintenir justement les discussions politiques malgré, je suppose, tout l'espace et l'énergie que ça doit vous prendre de maintenir à côté de ça la production et tout ça. Je ne sais pas si vous avez mis des choses en place qui permettent ça de manière plus fluide.
Bah, oui, bien sûr, ça prend oui, c'est évidemment, c'est difficile de concilier une production, c'est très exigeant, et du temps pour les actions dont j'ai parlé. Nous, en fait, on l'a structuré, on l'a pensé en termes de groupes d'action. Comme j'ai dit, en fait, on fait des mobilisations assez larges, et c'est pas que des paysannes, des paysans, même si vraiment, c'est l'identité comporte, donc c'est fondamental qu'il y en ait. Donc nous on est structuré en asso. Maintenant on a un CA dans cet asso, où il y a plus de la moitié des membres là, ce sont des paysans. Ça c'est important. Mais après, on est structuré dans des groupes d'action, et l'objectif, c'est que ces groupes d'action ils soient autonomes, enfin, ou en tout cas le plus autonome possible. Bon, ça n'empêche qu'il y a besoin de mettre de l'énergie quand même dans une forme d'animation, ou de coordination aussi, pour pas que ça travaille en silo, parce qu'une fois qu'on structure les trucs comme ça aussi, c'est le risque, c'est que finalement, et là aussi, on s'éloignerait de l'intention politique, quoi. C'est que chaque groupe fonctionne en silo. En fait, l'intérêt, c'est que les groupes, il y a aussi une forme de dépendance, quoi. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on a un groupe qui s'appelle Mutualisation et Entraide. Donc là où les sujets, c'est de savoir, bien sûr, la mutualisation, ça existe en agriculture. Il y a même des... Et c'est même un outil, même de la FNSEA à travers des CUMA. Enfin bon, les CUMA, elles sont pas toutes, elles n'ont pas forcément tout cet objet, mais en fait, c'est un moyen aussi d'aller sur de la surmécanisation voilà. Et donc nous, comment on s'approprie ça, quoi? Comment on s'approprie cet objet de la mutualisation? Et c'est pas simple, parce que du coup, on est éclaté sur le territoire, évidemment.
le cercle là des gens qui pourraient mutualiser, ben, à l'inverse des viticulteurs FNSEA, ils sont pas sur la même commune. En fait, ils sont éclatés un peu partout dans les corbières. Du coup, si on mutualise du matériel, ben, c'est compliqué parce qu'il va falloir, il faut bien le transporter à un moment donné. Et aussi, si on parle de diversification, ben, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il y a à la fois du maraîchage, de l'élevage, de la viticulture, de l'arboriculture. Et comment on fait du coup pour mutualiser dans ce contexte-là? Bon, bref, ce groupe, il s'intéresse à ça. Mais à côté de ça, il y a un autre groupe qui a où c'est un atelier partagé. Donc ça, c'est sur la ferme, c'est entre quatre murs de la ferme, et donc ils se retrouvent les gens pour bricoler ce qu'ils ont envie de bricoler. Et on fait plus que ça parce que du coup, avec l'atelier paysan, on a une dotation un peu particulière, c'est qu'on a un fourgon, donc un fourgon mobile. Du coup, l'atelier, il peut se projeter dans le territoire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le principal écueil, en fait, pour mutualiser du matériel, ce qui est exprimé, c'est le problème de la casse, quoi. C'est comment ça se passe, moi, si je prête mon matériel et qu'on me le rend cassé. Évidemment, c'est un peu la hantise de laisser son matos. Et en fait, par l'atelier partagé, du coup, qui est un autre groupe de l'asso, ben, en fait, ça apporte une solution, une réponse, quoi. En fait, du coup, si c'est réparé, ben, en fait, c'est simple. Si c'est cassé, si c'est rendu cassé, ben, on le répare, quoi. Voilà. En tout cas, bon, il y a cette forme, d'interconnexion entre les groupes, qui fait que ça marche. Enfin, il faut qu'il y ait ça, sinon, ça marcherait pas. On a un autre groupe qui fait de l'éduc pop. Voilà, parce que ça aurait pas de sens en fait d'envisager les groupes dont je vous ai parlé si on faisait pas de l'éduc pop et s'il y avait pas ce groupe là pour aller chercher les gens des autres groupes et les ramener à des constructions un peu plus politiques, quoi. Voilà, parce que bon, voilà, réparer, bon, c'est bien, mais c'est pas un objet politique, quoi. Voilà. Ça peut le devenir, mais et donc le groupe Éduc Pop, il est là pour amener à ça. Voilà ce que je peux dire sur le sujet.
C'est hyper intéressant. Ah pardon, vas-y Chasse, si tu veux.
Je voulais juste répondre à la question de Denis.
Ouais, vas-y.
Il y a bien une coordination des greniers. On se retrouve souvent, soit pendant les mobilisations des soulèvements, soit aux résistantes cet été. Mais ça s'organise surtout au niveau régional, entre les cantines de lutte notamment. Au départ, l'intercantine du Grand Ouest a été montée lors des mobilisations contre les méga-bassines, où on s'est retrouvé à faire à manger pour des dizaines de milliers de personnes sur des week-ends. Mais maintenant, il y a une intercantine du Sud-Ouest. Il y en a d'autres aussi à l'Est. Je connais moins forcément depuis Rennes. Mais voilà, il y a des coordinations, mais plutôt régionales. Vas-y, Clo, si tu voulais enchaîner. Ah, c'est interne au soulèvement. Oui, non, les intercantines dont je parle, c'est extérieur au soulèvement.
Eh ben, ouais, j'attendais la réaction de Denis pour voir s'il y avait d'autres questions, mais en effet, ouais, les cantines, c'est extérieur. Et en tout cas, merci beaucoup, Nico, pour ton témoignage. Moi, j'ai l'impression que ça. En tout cas, nous, chez Terre de Lutte, on se questionne aussi sur un peu, vous voyez, qu'est-ce qui fait aussi un territoire en résistance et le fait d'avoir bah, à la fois des greniers, des réseaux de ravitaillement, un atelier de réparation, l'éducation populaire, etc. Nous, on a vraiment l'impression que ça crée aussi un pouvoir de résistance et de réaction du territoire quand bah, y a un mouvement social, quand il y a un projet, un gros projet dégueu qui s'installe sur le territoire, quand on constate frontalement la montée de l'extrême droite, et bah, ça donne aussi des endroits où les personnes elles peuvent s'investir et une réelle capacité de territoire. Et en tout cas, enfin, c'est hyper précieux et j'ai l'impression que ton exemple était hyper parlant là-dessus. Donc, merci beaucoup. Et à tous d'ailleurs, j'ai l'impression que vos exemples étaient trop chouettes. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon on va pouvoir tranquillement s'acheminer vers la fin. Moi, je voulais vous dire, vous pouvez retrouver les différents webinaires qu'on a fait sur ces sujets. Parce que, bah, comme disait Nicolas, parfois, qui dit un grenier dit ensuite un atelier de réparation, qui dit faire un événement dit aussi une mutuelle de matériel, plus une cantine, plus... Enfin voilà, et ça fait énormément, on sait bien, mais en tout cas on essaye d'aborder ces différents sujets parce qu'on a l'impression que c'est une autre manière de faire de la force politique, tout en gardant évidemment ce politique à la fois en boussole et aussi à l'intérieur même de ces réseaux. Et donc... pour continuer un peu la série des webinaires, simplement pour vous dire qu'en février, le 19 février, on abordera la question des réseaux de soins aussi, c'est-à-dire comment les camarades qui font médic, parfois du soutien psy, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre l'antiracisme, de l'écoute aussi, et ils viennent renforcer à un autre endroit, mais ils viennent renforcer et permettre aussi les mouvements. Je pense typiquement à Rennes, vous avez aussi La Bulle, qui est une bambinerie, qui accueille les enfants, par exemple, pendant des mouvements sociaux pour que les parents puissent aller manifester, etc. Et donc, il y a vraiment des points d'appui aussi par le soin dans la mobilisation. Donc ça, ce sera le 19 février à 18h30. En mars, on discutera du coup Assemblée et éducation populaire. Donc, t'en parlais juste avant, Nico, et ce webinaire-là, il sera le 10 mars à 18h30. Du coup, j'ai l'impression que les assemblées et aussi mettre les réseaux de soutien au service des assemblées, mais savoir préparer, aborder des assemblées populaires, c'est aussi ça qui va structurer tous ces réseaux et permettre d'insuffler parfois du politique ou une stratégie commune qui peut être proche et qui a besoin des réseaux pour être et qui à la fois est leur support. Et en avril, le 16 avril à 18h30 aussi, on discutera des lieux en lutte. Parce que souvent quand même les lieux, que ce soit une ferme là dont tu parlais, typiquement Chat, mais aussi vous Nico avec Beauregard, etc. On va aborder aussi tout ça. Donc c'est un peu les prochaines étapes. Et sinon, merci beaucoup à toutes et tous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément plus de questions. Et je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Chat, si tu veux conclure à quelque chose. Oui, merci à tous et toutes d'être intervenus aussi.
En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, à Nico Arnaud et les camarades de Chinon. Et c'est vraiment possible d'écrire sur le mail des greniers si vous avez des questions, s'il y a besoin de soutien, de contact, de thunes. N'hésitez pas à écrire sur le mail des greniers que j'ai mis dans le chat tout à l'heure. Et merci à Terre de Lutte pour l'organisation.
Bonne soirée tout le monde, au revoir.
Merci à vous, salut, bonne soirée, merci. Portez-vous bien.
Salut.
Ciao, ciao.
Salut, bonne soirée à vous.